Alors, toujours dans notre résumé du Navi, ici ce cours-là, c'est en fait un résumé en rapide du Nar. La Torah, on a fait Tanar. Donc la Torah, c'est Chamisha Chamisha Torah. Et après, il y a le Nar, les Nevim. Ouais, on a commencé par Shoftim, après Shmuel, Melachim. Après, on a parlé de Yonah. Ouais, après, on est arrivé à parler de Shlomo, de David. Là, on est vers la fin, là, on arrive presque au roi Hoshéa. Il y a un sefer qui s'appelle Hoshéa. Ce Hoshéa, là, c'est un Navi. Et une fois, il est arrivé dans la période où les Bnei Israël, encore, ils fautaient, et ils fautaient, et ils fautaient. Et les rois, ils partaient tous en cacahuète. C'était une période très, très dure. Il y avait beaucoup, la Avodah Zara, elle était... Je vous ai déjà raconté ce fameux Gaon de la Avodah Zara, je vous le rappelle, parce que c'est un Gaon magnifique. Ilan, écoute, avant que tu partes à Lyon. Le Gaon Mivina, il dit un truc magnifique. Je l'ai déjà dit dans le cours, mais peut-être qu'on le répète, c'est pas grave. Le Gaon Mivina, il ramène, il demande comment c'est possible que maintenant, on a plus de Nevim. Nous aussi, si on avait des prophètes qui nous disaient quoi faire, on ne serait pas allé tous les soirs au resto. On serait là, présent, au Beta Midrash. Les bancs du Beta Midrash, la Yeshiva, au lieu d'être 80, elles seraient 150. Ouais. Donc pourquoi Bémet, Akash Baruch Hu, ne nous a pas, à nous, donné des prophètes? Il dit, le Gaon de Vilna, un truc magnifique. Et il y a écrit dans Sanhedrin que les Chachamim, ils sont venus chez Hachem, ils ont prié Hachem, ils ont demandé à Hachem, s'il te plaît, on te demande une chose, Akash Baruch Hu. On n'en peut plus de la Avodah Zara. On n'en peut plus, on craque. Tu sais qu'avant, il y avait un Yitzhara, comme maintenant, il y a les Yitzhara des femmes. Avant, le Yitzhara, il y avait plus, un Yitzhara encore plus grave que les femmes. C'est quoi? C'était l'idolâtrie.
J'ai entendu, moi, que lorsqu'on fait la Avodah Zara, la Avodah Zara nous envoyait des choses.
Une seconde. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de Yitzhara. C'est comme maintenant, moi, quand je réfléchis à ça, par exemple, en ce moment, on est obligé de parler du Mondial 2018. OK? Il y a des matchs et des matchs. Celui qui regarde les matchs, il voit que dans les terrains, il y a des milliers de spectateurs. Mais les cibles, ils n'ont rien à faire dans leur vie, quoi. Regarde à la fin du match, tu regardes un petit résumé, tu regardes les deux buts, et basta, ça finit l'histoire, tu vois. Maintenant, c'est la sorte de ta pile-poule. Regarde le Tachlès, regarde le résumé, tu vois les deux buts, les trois buts de Ronaldo, et c'est fini l'histoire. Écoutez l'histoire. Tu vois des gens, ils se lèvent, des gens qui pleurent, ils pleurent. Ils sont comme des fous quand ils perdent. Alors que c'est lui qui perd l'argent, c'est pas toi. Eux, ils touchent rien. Ils ont dépensé l'argent. Bon. Donc tu vois qu'il y a des gens, qui sont attirés, pas que par l'argent. Il y a des choses qui attirent dans la vie. Naron, tu te demandes, mais il est idiot celui-là, il a l'air intelligent, qu'est-ce qui s'allume avec un match de foot? Donc tu vois qu'il y a des, dans la vie, il y a des tentations et des envies de faire des choses. C'est pas que faire des bêtises avec des femmes, le football c'est pas des femmes, le football c'est un match, c'est un ballon. Donc tu vois qu'il y a des tentations, il y a des envies. Alors moi je le vois la même chose pour la Avodah Zara. Avant, l'idolâtrie c'était une envie. Il y avait une envie très forte. Il y a écrit dans l'Agma que si, il y en a un qui s'est moqué de Baal Péor, de la Avodah Zara, qu'il faut faire ses besoins devant l'idolâtrie. Il dit, si tu étais là-bas, frérot, tu aurais couru à quatre pattes. Tu aurais enlevé tes chaussures pour courir plus vite. Ok? Tu aurais enlevé tes chaussures. Tu aurais enlevé tes... Ça me rappelle, j'ai une arrière... Ma femme, elle a une arrière-grand-mère ashkenaz. Elle a dit qu'elle avait sa fille. Ouais, une arrière-grand-mère, sa fille. Elle était, comme c'était le rabbin, ils l'ont tué, les nazis l'ont tué sur la place publique. Et la fille, elle savait très bien faire du cheval. C'était une belle femme, tu sais, une femme, des gens classe comme ça, elle faisait du cheval comme il faut et tout. Et ils ont commencé à essayer de l'attraper pour la brûler elle aussi sur la place. Elle a commencé à courir. Un sale polonais, mais aucun rapport, il était aucun rapport, c'était pas un soldat. Qu'est-ce que tu te mêles? Il a enlevé, c'était la neige, il a enlevé ses bottes. Pour courir, pour l'attraper et pour la donner aux soldats. Tu te rends compte de la méchanceté? Moi, c'était en parenthèse parce que j'ai parlé dans les chaussures. Donc, on voit là-bas, il y avait un Yetzara, une tentation terrible de faire la Avodah Zara. Donc, les Chachamim, ils ont dit, on n'en peut plus. Hachem, regarde, c'est où tu veux qu'on craque, où tu nous enlèves ces tentations-là, ces envies-là, tu nous enlèves. Parce que tenir, on ne peut pas tenir, c'est trop dur, tu vois. C'est trop dur, ces tentations. Avec Jbor, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, le lendemain, Hachem, il a enlevé la il n'y avait plus d'Yetzara de faire la Vodazara. Il n'y avait plus. Tu connais ça? Il n'y avait plus d'Yetzara. Les Chaim nous ont dit, ah, si ça marche, viens, on prie pour les femmes. Ils ont prié qu'il n'y a plus de Yetzara pour les femmes, qu'il n'y a plus d'envie pour les femmes. Ils ont prié, le lendemain, ils vont pour faire une petite omelette pour le petit déjeuner. Il n'y a pas d'œuf dans le poulailler. Pourquoi? Parce que même les poules, ils ont plus envie de se... voilà, le poule, le coq, ils ont plus envie de se... Maintenant, c'est, les œufs, c'est... Ouais, c'est plus la poule, la coque. Tu sais comment ça marche? Ils leur mettent des lumières comme ça et la poule, elle pond des œufs sans même faire avec ça. C'est pas une relation. Tu sais ça? C'est pour ça que le sang qui... Si on trouve du sang dans les œufs, c'est pas grave comme si tu trouves des œufs de ferme. Des œufs de ferme, c'est une poule et un coq. Alors là, il y a vraiment un poussin. Donc le sang, c'est du poussin, tu vois ce que je veux dire? Donc le sang, c'est assourd de le manger. Mais quand c'est du sang qui est... C'est du sang artificiel, on va dire, c'est pas du vrai sang. Alors on est plus cool, c'est-à-dire que quand c'est dans du blanc, on peut l'enlever, quand c'est dans du jaune, ça aussi, ça se discute. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les œufs de ferme et les œufs de normal. Mais en tous les cas, sans de parenthèse, ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, donc ils ont dit, donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de Yetzara, ils ont dit, on peut pas, on peut plus faire ça. Ils ont pris Hachem qui remet le Yetzara, Hachem il a remis, il a dit, qu'est-ce que ça a aidé? Ça a aidé qu'au moins, on n'a plus envie de les frères et les sœurs, les proches. Tu as remarqué, ta sœur, c'est une bombe atomique. C'est pour ça que Rudy la veut. Mais pourquoi toi, tu ne la voudrais pas? Pourquoi Rudy la veut et toi, tu ne la veux pas? Mais si ta sœur, ce n'était pas ta sœur, et tu l'avais vue chez Rudy, tu aurais envie de te marier avec elle. Ah, pourquoi toi, maintenant, parce que c'est ta sœur? Ah non, parce que c'est ma sœur, je ne vais pas me marier avec ma sœur. Mais pourquoi tu n'as pas d'envie? Là, bon, alors, tu vas me dire, il y a des débines. Il y a toujours des débines, mais logiquement, les gens, ils ne vont pas avec leur sœur. Ouais, pourquoi? Parce que c'est ça que ça a aidé. C'est-à-dire que la prière, quand Khamim, ils ont remis le Yitzhara, ça a aidé qu'au moins, on n'a plus de Yitzhara, au moins pour nos proches. C'est déjà pas mal. Sans parenthèse. Dis le Gaon de Vilna, puisque Khamim, à cette période-là, ils ont enlevé le Yitzhara, de la Avodah Zara, il n'y avait plus de Yitzhara. Donc il dit, imagine maintenant, quand il y avait les prophètes, il y avait le Yitzhara. Donc la Bechira, le libre arbitre, il doit être 50-50. D'un côté, tu as la Avodah Zara à fond la caisse, et d'un autre côté, tu as le Navi qui te raconte ce qu'il raconte. Ok? Qui j'écoute? Je ne sais pas. Là, j'ai envie d'aller voir un match de foot, je l'écoute à lui. Ok? Là, j'ai envie d'un peu de Torah, je l'écoute à lui. Tu vois ce que je veux dire? Le Navi, bien que c'était un grand rabbin, il te disait ce que Dieu il a dit, mais... Il ne me branchait pas beaucoup parce que j'avais un Yitzhara de ouf. 50% de faire le contraire de ce qu'il me dit. Maintenant, quand l'Avodah Zara est descendue, il n'y a plus d'Avodah Zara. Donc le bien maintenant, il est en haut. Nahon, si, imagine, tu mets un avis maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout le monde va aller au Beit HaMidrash. C'est plus une Chochma. Tu as compris? Dis le Gaon de Vilna. C'est pourquoi on a annulé. C'est pourquoi au moment où les Chachamim ont enlevé le Yitzhara des Nevi'im, le Yitzhara d'Avodah Zara, Bidjouk, à ce moment, ils ont annulé, l'époque des Nevi'im a été annulée. Pourquoi? Parce qu'il faut un juste milieu. Ok? Ça, c'est un Gaon de Vilna que j'ai entendu. Dès que j'ai entendu, il est resté gravé dans ma tête. Je l'adore, ce Gaon. Il est très joli, je trouve. Tu entends? Non, ça m'a résolu plein de problèmes, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ceux qui ont des problèmes. Il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui, ça les dérange, quoi. Il y a des choses qui te dérangent dans la Torah. Et quand on te donne une solution à des choses, ça t'ouvre un peu les portes. Alors, ce que je vais dire, c'est ce que j'ai dit à mes élèves le matin. Écoute, Ilan, c'est que vous êtes là un an à l'Yeshiva, en parenthèse. Vous êtes là un an. Ilan, un an. L'année, elle passe très, très vite. Regarde. Tu te rappelles déjà, quand tu t'es rentré, la Khan, elle est déjà passée. Ça passe très vite. Le temps file très vite. Et dommage. C'est-à-dire que plus tu t'investis, plus tu réussis. Plus on s'investit dans ce qu'on fait, je ne dis pas que tu veux devenir rabbin ou devenir un vrai. Tu ne veux pas devenir, je veux travailler et je veux faire de l'argent. Ok, on sait. C'est là, je veux être comme mon père, je veux être comme mon grand-père, je n'ai pas de problème. Mais même si tu vas travailler, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être mieux que ton père. Ouais. est mieux que ce que tu avais pensé à être. Comment? En s'investissant. J'ai étudié Gemara Bamitsia, je fais révision. Ok? Parce que si on n'a pas fait révision, ça ne marche pas l'histoire. Ça ne sert à rien. Kolaz, on met ta Gemara dans Shabbat. Kolazoréa venokotzer. Ouais. Kolalomed venokhozer. Tout celui qui étudie et qui ne révise pas, c'est comme s'il plante et il ne cueille pas. Ouais, c'est-à-dire que ça ne sert à rien dire. S'investir, j'aurais dit à mes élèves. Et des gens, ils arrivent, tu vois, au Midrash, après tu les vois, ils s'endorment. Mais qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Mais va dormir chez moi, chez toi à la maison, va dormir. Qu'est-ce que tu viens me faire? Tu me fais honte quand tu dors. Ça fait genre je t'endors, tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est, mis à part ça qu'on s'endort, ouais, mis à part qu'on s'endort, mais il y a le problème de s'investir. Comment, l'importance de s'investir? Tu t'endors à Botaï? Comme toi, tu as la Rabbi, c'est quoi ton prénom?
Chaim.
À l'armée, ouais. Tu t'investis, Nachon. Quand il faut arrêter ceux qu'il faut arrêter, je dirais pas dans la vidéo. Tu t'investis, Nachon, à 4h du matin, vous allez, tac, tac, vous attrapez les gens. Alors, on s'investit. Quand tu es dans une Gemara, on s'investit dans une Gemara. Tu es d'accord, Rabbi Simon? Par exemple, quand tu vas aller travailler maintenant en été, tu vas aller travailler dans les hôtels. Ok? Tu vas t'investir. En plus que toi, c'est toi qui as amené tout le groupe. Tu vas être super sérieux. Tu t'investis parce que tu veux que l'année prochaine ils te prennent. Et tu veux que l'année prochaine aussi ils me prennent aussi. Donc c'est une roue, quoi, on va dire. 0615. Alors ce que je veux dire maintenant, Rabotai, Zagon. Donc Bekitsour, c'était une époque. Oshéa, il était dans une époque de Kata. Il faisait la Vodazara encore. C'était encore l'époque de la Vodazara parce que puisqu'il y avait des Nevim, il y avait la Vodazara. À un moment, Oshéa, il parle à Hachem directement. Il dit à Hachem, regarde, Dieu, tu es le maître du monde. Tu es le maître du monde. C'est un problème pour toi de changer de peuple. Aujourd'hui, tu es un supporter de l'OM. Demain, tu es supporter de Paris, Mabaya. Aujourd'hui, tu es supporter d'Israël. Demain, tu es supporter d'un autre peuple. Et Hachem, il n'aime pas ça. Dieu, il n'a pas aimé cette histoire-là. Il dit, comment tu parles de ça? Il a fait tomber. Il a fait qu'Oshéa, il s'endorme. Oshéa, il s'endort et il lui a fait un rêve comme s'il se mariait et qu'il a eu deux garçons et une fille d'une femme qui était très très méchante. Et elle lui faisait des problèmes de ouf. Et après un moment, Hachem, dans le rêve, Hachem lui dit, tu sais quoi, divorce s'il te plaît, je te demande de divorcer cette femme. Il dit, comment je veux divorcer cette femme-là, qui m'a... la mère de mes enfants, même si je ne l'aime pas, mais c'est la mère de mes enfants. Et Hachem lui a dit, tu vois que... Bien qu'elle te prend la tête, comme c'est la mère de tes enfants, tu ne veux pas la divorcer, la Ron. Alors pourquoi toi tu voudrais que je divorce mon peuple? C'est pas joli de parler de ça. Ouais, vous êtes des traîtres. Je te prends pour être mon avocat. Imagine, je te prends, Ilan, toi tu es un avocat, je te prends pour que tu sois mon avocat et tu me plantes un couteau dans le dos. Tu entends? Tu viens, au lieu de me plaider, tu plaides l'autre. C'est pas sympa, je veux dire, moi je t'ai payé. Alors le Hachem, il a dit à Oshéa, et Oshéa, il s'est réveillé, et il a vu la bêtise qu'il a fait, il a dit, s'il te plaît, je te demande pardon. Akshbokhu, il lui a pardonné. Et après Oshéa, après un moment, il est mort, et avant de mourir, il a dit, regardez, je vais être enterré en Israël, mais vous n'allez pas m'enterrer. Vous savez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ma tombe, vous allez me mettre dans un cercueil, vous allez me mettre sur un dos d'un âne et vous laissez l'âne partir. Il va trouver son chemin. Et voilà que l'âne, il est arrivé, c'était en dehors d'Israël, il allait jusqu'à Tzfat. Et dès que les juifs de Tzfat, ils ont vu un cercueil, ils ont ouvert le cercueil, il y avait une lettre là-bas. Ouais, et la lettre, c'est écrit, je suis Oshéa, le Navi d'Israël, si vous pouvez m'enterrer. Et ils l'ont enterré en Tzfat. Regardez ces grands-là, comment ils sont.
C'est possible de le refaire,
ça? Hein?
Si on est enterré comme ça.
Pourquoi pas? Par rapport à quoi? Par rapport à la durée, tu parles? Qui reste longtemps dehors? C'était pas des gens comme tout le monde, quoi. Oshéa, c'était des Nevim, c'est-à-dire qu'un Navi, c'est presque un ange, quoi. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on sait pas où il est enterré. Pourquoi on sait pas où il est enterré? Parce que il peut pas être enterré quelque part. D'être enterré pour lui, c'est pas un kavod. Parce que c'est à moitié, en même temps c'est un homme, en moitié c'est un malar. Il arrivait à se débloquer de l'homme et devenir un malar. Jusqu'à qu'à la fin de sa vie, il a dû mettre un masque. Un masque. Parce que les gens qui le voyaient, ils s'abîmaient les yeux, quoi. Ça ou pas? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il est arrivé il a commencé à être un homme et il est devenu un ange. Ça, c'est le summum des summums. C'est pour ça qu'on ne sait pas, l'endroit de son enterrement. Bref, je continue, donc je parle d'Hoshéa. J'arrive, il y avait un moment, dans cette période-là, il y avait un roi qui s'appelait Uzziyahu, le roi de Yehuda. Uzziyahu, le roi de Yehuda, c'était un roi de Yehuda, comme on avait dit qu'après Shlomo, ouais, le peuple juif, les tribus sont séparées dans les rois. Il y avait le roi de Yehuda et le roi d'Israël. Tu connais ça? Ouais. Après, le fils de Shlomo, Rechavam, il s'est mal comporté. Donc, la royauté, elle s'est dispersée, elle s'est séparée en deux. Logiquement, c'était un roi qui chapeaute tous les tribus. Et malheureusement, ça s'est séparé. Et voilà que ce Uzziyahu Melech Yehuda, qui était un roi en attendant bien, il était autant du prophète Yeshayahu, rappelez-vous, Yeshayahu. Et voilà que Yeshayahu, pitom, ce Uzziyahu, il est autant du Beth Amikdash. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé. Il est rentré chez lui, une sorte de shtout, d'idiotie. Il rentre au Beth Amikdash, c'est un roi, tu vois, donc tout le monde le laisse rentrer. Et à un moment, les Kohanim, ils disent, Atkan, tu n'as plus le droit de rentrer, tu n'es pas un Kohen. C'est pas un coin de gadot, je peux pas rentrer plus. Il a dit, si vous ne me laissez pas rentrer, je vous fracasse. Tous, vous allez mourir. D'un coup, il y a écrit que toute la terre, elle a commencé à bouger. Il y a eu une sorte de tremblement de terre. Il a eu la lèpre, ce roi-là. Jusqu'à la fin de sa vie, il a eu la lèpre. Et à la place, donc il a été puni, il s'est calmé, il est parti. Et à sa place, qui a régné? Au début, presque les malachim, ils voulaient descendre et l'enfouir comme Korach Vadato. Hachem, il a dit non, il ne sera pas comme Korach Vadato. Et donc, après, il a eu la lèpre. Mais par contre, ce Yishai, pourquoi je vais parler de lui, Uzziyahu, il a eu un fils, parce que j'ai envie de parler de Chizkiyahu, de Chizkiya. Ce Uzziyahu, il a eu un fils qui s'appelle Yotam. Ce fils Yotam, c'est un tzadik, bien que lui, son père, c'est un rachat. Et malheureusement, son fils, il a eu un fils qui s'appelle Achaz. Et lui, c'est un vrai, vrai voyou. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Rabotai, tous les chivotes, il allait dans tous les synagogues, il a fermé toutes les portes, il n'y a plus de synagogue, il n'y a plus d'école, plus de Torah. Il allait dans le Beth Amikdash, plus de Beth Amikdash. Il a mis une idole dans le Beth Amikdash. Il a dit, c'est fini. Et Shayahu, il vient, le Navi, il lui dit, frérot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux que je fasse descendre Elio à Navi pour qu'il te montre le droit chemin? Tu veux que je te fasse sortir Korach et Adato de sa caverne pour qu'il vienne te parler de son trou? Et ça, rien ne lui a fait quelque chose. Il a continué à être méchant, méchant, méchant. Je crois qu'il a fait une guerre, il s'est fait éclater, il est mort. Mais avant de mourir, il a eu un enfant qui valait la peine. Il s'appelle le roi connu, s'appelle Chizkiyahu. Le roi Chizkiyahu, il faut le connaître, il faut se rappeler son histoire. C'est beaucoup dans le chasse, on le voit sur Chizkiyahu. Entre autres, vous avez déjà entendu parler de Sanhérib? Sanhériv, tout l'exil, c'est Sanhériv qui a amené ça. Ouais, l'exil qui s'est passé, c'est Monsieur Sanhériv. C'est un ouf, Sanhériv. Il a pris tout le peuple juif, il l'a envoyé en exil. Jusqu'à qu'il arrive devant Jérusalem, on va parler de ça. Donc Chizkiyahu, maintenant, il va venir, après que son père il est mort, il reprend la royauté, et voilà que Chizkiyahu, il commence à rouvrir tous les synagogues, ouais. Il ouvre tous les choules, tous les synagogues, toutes les écoles, et il commence à remettre la Torah. Il y a écrit qu'au temps de Chizkiyahu, l'Agma a dit que les enfants de 3 ans, ils connaissaient tout le Seder Taharot. Ouais, comme ça, on voit dans le Chaz, dans Psachim, dans Sanhedrin, on voit qu'ils connaissaient tout le Seder Taharot. Ça, c'est quoi le Seder Taharot? Tout le Seder de pureté. Tu as déjà étudié le Seder Taharot? Non. Alors, ça veut dire que quoi? Qu'ils étaient à un degré, un niveau de spirituel énorme, énorme, énorme. Tout le monde étudiait. Il a enfoncé Chizkiyahu une épée devant le Beth Amidrash. Il a dit, tout celui qui ne vient pas étudier la Torah, je le transperce de l'épée. C'est bien ou c'est pas bien? C'est... Ouais, pourquoi pas? C'est-à-dire que Chizkiyahu, il a vu la vérité. Donc comme c'est le roi, vous savez que les rois en Israël, comme on a déjà parlé, un roi, c'est pas comme un roi. Quand on parle d'un roi, c'est pas comme le roi d'Angleterre ou le roi du Maroc ou le roi de je sais pas où. quand on parle d'un roi Israël dans le Nahr, un roi, c'était pas une importance, je suis roi, je suis président, je suis invité de partout. Un roi, c'était la personne, c'était le mashgiah du peuple juif. C'était ça, un roi. Un roi, il marchait toujours, pas avec sa Rolex et avec son costume, comment ? Valentino. Donc, il dit, il marchait pas comme ça. Le roi, comment il marchait ? Avec quoi ? Pas avec son portable iPhone 10. Ouais. Il marchait avec son Sefer Torah, toujours. Il avait deux Sefer Torah, mais un Sefer Torah qu'il lâchait pas. Un Sefer Torah portable. C'était le Sefer Torah portable. Et pourquoi ? Pour lire toute la journée dans le Sefer Torah. S'il y a une question, si je viens de poser une question, tac, tac, je regarde. Malkatou Batorah. De la Torah, il arrivait à sortir la halakha. Ok ? C'est-à-dire que le roi, c'était le synonyme de la personne qui mettait tous les gens sur le droit chemin. C'est ça, le roi. C'était pas un type dans la politique, celui qui va ranger dans le Sénat ou je sais pas quoi. Le roi, c'était quelqu'un qui était... Son but, c'était de mettre les Bnei Israël dans le droit chemin. Donc, vous comprenez que si le roi, maintenant, il a décidé de faire la zizanie, il va le faire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, Chizkiyahou, maintenant, il vient remettre le droit chemin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait étudier tout le monde. Il remet les bêtes à midrash. Il rachète des chaises. Il rachète tout ce qui est... Il rachète des lumières, de l'huile d'olive pour... Avant, ils avaient de l'huile pour... C'est pas de lumière, c'est avec de l'huile. Ouais, il fait des beaux bêtes à midrash. Qui sont tout son argent, il a mis pourquoi ? Pour l'étude de la Torah. Il a misé. Ouais, imaginez-vous qu'en Israël, il mise plus d'argent pour le spirituel. Ok ? Je dis pas, bon, Hachem, la Médiane d'Israël, on a plein de yeshivot, on a plein de synagogues. Bon, Hachem, j'ai entendu que juste à Jérusalem, il y a au moins plus de 1400 shuls, synagogues. Il y en a plein de synagogues, il y a plein d'endroits de shuls, il y a plein de kohélim, Baruch HaShem, dans tout Israël. Baruch HaShem, avant il n'y avait pas, ça fait 70 ans, c'est grâce à l'État, c'est sûr que c'est grâce. Maintenant, après que les religieux, ils ont un peu des arguments, ils ont des problèmes avec comment ils gèrent la politique, ça dérange, on comprend. Ouais. Mais c'est sûr qu'on peut reconnaître que, depuis que la Médiane d'Israël, elle est là, il y a eu plein de Torah. Ok ? Plein de Torah, et des yeshivot, qu'il n'y avait pas avant. Et donc, Chizkiyahou, lui, il a fait ça. Il a misé tout son argent pour ça. Maintenant, le problème, c'est que il y a le roi Sanhérive, c'était le roi de Ashur. Et ça, on va raconter la semaine prochaine la fin de l'histoire de Sanhérive avec Chizkiyahou, avec l'histoire qu'il n'a pas d'enfant et son fils Ménaché. Ça, c'est la semaine prochaine. Juste, je vais préciser trois petites histoires que j'ai kiffées. La première histoire qu'on a racontée la semaine dernière, mais c'est pas grave, on la re-raconte, c'est l'histoire de, je vous ai raconté, cette histoire, elle est gravée dans Yad Vashem. C'était l'histoire de parents juifs, hollandais, avec des moyens assez chargés. Et voilà qu'ils avaient une fille. Et arrive la guerre, les nazis, ils commencent à faire le balagan, ils savent pas s'ils vont rester en vie. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, on est obligé de trouver des parents pour cette fillette. Des parents adoptifs. Donc ils essayent de trouver. Elle avait 2 ans. Et la guerre va commencer. Donc ils prennent tout leur argent, tout leur bien. Ils disent à un couple de Polonais, si vous gardez notre fille en sain et sauf, vous la faites grandir. Et après qu'on revient de la guerre, si on revient sain et sauf, alors on vous donne tout notre argent, tous nos biens. Bien sûr, ils ont accepté. Donc ils n'ont même pas raconté que c'était des parents adoptifs. À 2 ans, ils l'ont reçu. Après. Elle a duré la guerre pendant 5 ans. Après 5 ans de guerre, Baruch HaShem, les parents n'ont pas été tués. Ils sont venus maigres, mais ils avaient un gros bide, mais ils sont revenus maigres. Ils reviennent de la guerre, ils avaient le contrat, voilà. Après la guerre, on est prévu que tu nous rendes notre fille. Ils arrivent devant la fille. La fille, elle sent quelque chose. Comme il écrit dans les commentaires, il écrit que Yosef, quand il s'est retrouvé avec ses frères, il écrit que Yosef les a reconnus, mais les frères ne l'ont pas reconnu. Les commentaires, ils demandent, mais comment c'est possible que les frères ne l'ont pas reconnu ? Il y a écrit que le cœur, les cœurs, ils se connectent, comme une Wi-Fi, automatiquement, les cœurs des frères. Ouais, dans les cœurs de frères, on se connecte. Répond les Mefarshim que les frères de Yosef, ils sont déconnectés. Je te rappelle, ils sont déconnectés. Et comme ils sont déconnectés, donc Yosef est déconnecté, mais eux, ils étaient déconnectés. Quand tu éteins la Wi-Fi, il n'y a plus de Wi-Fi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, Ilan ? Donc, maintenant, elle ne sait pas ce qui se passe, mais elle sent une chaleur. La maman, elle va vers la fille, elle la bénit. Elle dit, Simer Elokim, que Sarah, Rivka, Rachel, Venea, Yvaha, Hashem, Yishmecha, Yair, Hashem, Panavelecha, Vechunneka, Issa, Hashem, Panavelecha, Vyasem, Rachelam, Vesamu, et Shemi, Abne Israël, Vania, Rachem. Et tu vois pas que la fille, instinctivement parlant, elle dit Shabbat Shalom. Et voilà que les parents, tout le monde, ils commencent à pleurer. Comment une fille à 2 ans, que j'ai laissée à 2 ans, elle dit Shabbat Shalom? D'où elle a sorti ce mot-là? Alors que ses parents, ils l'amenaient à l'église pendant ce temps-là. Elle n'avait aucune notion du judaïsme. La réponse, elle est, la maman, elle a dit, chaque fois après l'allumage des bougies, qu'est-ce que je faisais? Je bénis ma fille et je lui disais Shabbat Shalom. Donc dès que je l'ai bénie, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Shabbat Shalom. C'est un instant. On voit comment la maman, elle inculque le judaïsme dans la famille. Deuxième histoire. Il y avait une fois, on raconte le slaba de Slabodka. On raconte que le rochevet de Slabodka, une fois, il marchait comme ça. Et voilà que quand il marchait, il y a une femme avec une poussette, elle lui fonce dedans comme ça. Presque, elle le fait tomber. Et quand elle a vu que c'était le rave, quand elle a vu que c'était le grand rochevet de Slabodka, elle se sauve. Le shamash, la personne qui s'occupait du slaba, du roshiva, elle a dit, elle n'a pas honte, celle-là. Regarde la politesse en Israël. Non seulement elle le renverse, mais elle ne lui dit pas pardon. Le roshiva, il dit, regarde, je ne veux pas te faire du moussa. Je vais te dire ce que j'aurais dû... Je vais te dire ce que je me dis à moi. Regarde-moi, cette fille-là, cette femme-là, à 2h du matin, son bébé, il a pleuré, elle s'est levée, elle lui a donné un côté. Elle allaite. 3h du matin, elle s'est levée, il a pleuré pour le deuxième côté. À 4h30 du matin, il a pleuré parce qu'il voulait un câlin. À 6h du matin, elle se lève pour se doucher et enfin s'habiller. À 7h, tous les enfants, elle réveille tous les enfants, elle habille chaque enfant, chacun un petit maquillage, tac, tac, tac. Ouais. Après, elle prépare le sandwich de chacun, tac, 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 la bouteille d'eau de chacun, tac, tac, tac. Après, elle arrange tous les lits, elle fait tous les lits, toute la maison, elle la rend clean, et après, elle commence à partir. Mais avant d'aller au travail, alors qu'elle a 14 enfants, avant d'aller au travail, cette petite fille, tu sais où elle a amené? Elle a amené à la Koupatrolim, c'est-à-dire elle a amené faire un vaccin chez le docteur. Il dit, le slava, mais c'est la vodka, il dit, regarde cette femme-là, combien de donations, combien de données au prochain, elle a donné depuis... Elle ne s'est jamais déconnectée du donné à son prochain. Et viens, on va faire la file avec moi, le slaba. Moi, je me suis levé à 7h, comme un padre, ok. J'ai fumé ma cigarette avec le café. Ouais, café. Après, j'ai fait ma tefila en détente. Après, la prière. Bon, j'ai dit un petit vartora sur la paracha à quelqu'un. Après, j'ai discuté avec un tel. On a rigolé, une petite blague, pauvre Cham. Après, j'ai fait mon petit déjeuner, omelette, tout ça. Et maintenant, on est en direction d'aller faire le shiur à l'échiva. Donc, qu'est-ce que j'ai donné depuis ce matin? Rien. Et elle, combien elle a donné? Est-ce que moi, j'ai la possibilité de parler sur cette femme-là? Les femmes, c'est ça des côtes. Troisième histoire. On raconte que il y avait une personne qui était directeur dans un cheder. Il raconte que jusqu'à l'âge de 12 ans, c'était un enfant chovav. Vous savez, c'est quoi un enfant chovav? Un enfant chovav? Non. Turbulent, très bien. C'est un enfant turbulent. C'est-à-dire qu'il fait le fou. Donc bien sûr, après 12 ans, on fait la bar mitzvah. À 13 ans, on fait la bar mitzvah. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? On doit se calmer. Mais lui, comme il a fait le fou toute la période de scolarité, quand il veut rentrer dans une yeshiva, est-ce qu'on va l'accepter? Eh non, on va pas l'accepter. Nakhon ou pas? On l'accepte pas. Vous êtes d'accord ou pas? Donc malheureusement, il n'avait pas de yeshiva ktana. Alors, Mina Shamaim, le beau-frère à son père, il a ouvert une yeshiva. Il a dit, si tu veux, moi je le prends ton fils. Une yeshiva ktana. Donc il a pris, c'était 17 bachourim. Ils ont commencé à donner le programme. Ils ont dit, regardez Rabotai. Vous voyez, c'est la masserette qu'on va étudier. On va étudier Bava Kama. Ben, à la fin de l'année, celui qui arrive à faire le Mifran avec une bonne note, il arrive à 80 sur sa note, il aura le mérite d'avoir la proximité que je l'amène chez Rav Chaim Kanievski et qu'il lui parle pendant 5 minutes. À votre avis maintenant, cet enfant-là, c'est quoi sa réaction? Qu'est-ce qu'il va se dire dans sa tête?
J'y arrive pas.
Très bien, Chazak Baruch. Première réaction qu'il va dire à l'enfant, ben c'est pas moi. Laisse tomber, Rudy, c'est pas moi. Ça va être Ilan, mais moi, non. Pourquoi? Parce que Ilan, c'est une bombe, il a eu en moyenne 22 en maths, en philo 9, bon, ça va. Mais en maths, il a eu 20 sur 20. Donc, c'est-à-dire que c'est un bon Dieu. Moi, qui je suis ? Donc, de suite, il s'est rabaissé. Et il ne sait pas pourquoi, il y a un rave. Il y a un rave qui est venu. Il est venu, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est toi qui vas faire le Mifran. Il lui dit, ce petit mot-là gentil, il dit, elle m'a changé toute ma vie. J'ai décidé de me prendre en main, Ilan, allez, j'attaque, je fonce, j'étudie, je défonce. Et voilà qu'il défonce, il étudie. Et le problème, c'est que, bien qu'il ait envie d'étudier, mais les autres, c'est des bombes atomiques, tu vois, ils sont plus... Lui, il n'est pas super intelligent, les autres, ils sont intelligents. Donc chacun, il a son classeur à part ça. C'est-à-dire que quand ils écoutent le cours du Rav, ils écrivent en même temps. Lui, c'est où il écoute, où il écrit. S'il fait, il ne peut pas faire les deux. Alors, il est un peu triste parce que tout le monde a un classeur. Tout le monde a une ambiance classeur. Mais lui, il n'a pas de classeur. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le Rav. Et il dit au Rav, il dit au Rav, est-ce que ça vous dangereux de me passer tes résumés, comme ça moi, je les recopie le soir après les chivas, quand personne ne me voit, comme ça moi aussi j'aurais le mérite d'avoir un classeur. Le rabbi dit, bien sûr, mais moi j'ai une écriture pas top, si tu arrives à me déchiffrer, vas-y prends. À 11h quand il arrive à la maison, pour pas que ses compagnons le voient, il écrivait comme ça et il s'endormait sur son livre, le pauvre. Donc il allait dormir et sa mère, la tzadéquette, elle remplissait, elle, alors qu'elle travaillait le lendemain et tout, elle lui remplissait tous les feuilles. Il dit que d'ailleurs, que sa mère, elle est décédée là-bas. Mais il dit qu'il lui reste les classeurs. Une page, il a écrit. Cinq pages, c'est sa mère. Une page, cinq pages. Et il continue l'histoire. Et il dit, regarde. Et il dit à la fin, c'est qui a fait le Mifran? C'est lui. Sa mère. Ta mère. tu dis ta mère. Écoute. Non, le Mifran, c'est lui. Alors, écoute. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il s'est passé qu'il a réussi à faire le Mifran. Grâce à quoi?
À sa mère.
Non! Grâce au mot, à sa mère aussi, t'as raison. Ah. Mais grâce au petit mot gentil de son Rav. Sans faire exprès le Rav, il lui a dit un petit mot, ça lui a donné la confiance en soi et il s'est décroché. Et depuis ce moment-là, il est monté, il est devenu directeur, je sais pas, d'un cheder. Bon, c'est pas grand. Grand rabbin d'Israël, mais c'est très bien pour ça, tu vois ce que je veux dire. Il touche une bonne paye, il est chachou, il gère tout le monde, il a un contact, il a écrit des livres et tout ça. Donc c'est-à-dire que tout ça, c'est pourquoi un petit mot. Vous savez pas, Rabotai, il y a des enfants qui se font, malheureusement, je me parle à moi, et ici, Atal, il y a des enfants, des fois, qu'ils se font déchirer en classe, ils se font déchirer. Avec les copains, ils se font déchirer. Les profs, ils sont déchirés. Tout le monde est déchiré. Ils arrivent à la maison, défoncés comme ça. Et ils attendent, sauf, que la maman ou le papa, ils vont être sympas avec eux, ils vont leur dire des mots gentils. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à la maison? Le papa et la maman, qu'est-ce qu'ils voient? Ils vont voir que les choses qui n'ont pas bien. Au lieu de les lever, cette fille-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils la rabaissent. C'est ça qu'on apprend en bataille. Le chinour des enfants. Ouais, le chinour, l'importance. Combien une mère est importante dans le foyer juif et combien c'est important l'éducation chez les enfants. Vous allez me dire, mais on n'est pas mariés encore. Ok, mais gardez-le dans vos contacts. Et vous rappelez, quand Bezachem, ça va vite, hein, comme je l'ai dit. La vie, elle va très très vite. Ok, qui aurait pu croire que j'ai des poils blancs maintenant? Ok, bon, la vérité, qui aurait pu croire? Et voilà, j'ai des poils blancs. Ouais, pratiquement pas, c'est dans le menton. Donc, en vérité, dire quoi? Moi, la vérité, pour moi, je suis un... Tu vois, et souvent, non, mais souvent, quand on vieillit, on voit par exemple, on voit une personne... tu vois une autre personne. Je suis sûr que lui, il a 10 ans de plus que moi. Et des fois, il est plus jeune que moi, tu vois ce que je veux dire? Il y a un âge comme ça, je dis à ma femme. Et ma femme aussi, elle me dit la même chose. Il y a un âge, quand tu arrives genre vers 40 ans, tu vois, les gens... Et tu as l'impression, toi tu te sens jeune parce que tu n'arrives pas à te voir. C'est ça le problème, il faut souvent te voir dans la glace. Tu n'arrives pas à te voir et tu crois que toujours la personne qui est devant toi, elle est plus âgée alors qu'en fait elle est plus jeune. Tu ne sens pas. Et c'est là que comprendre qu'il faut commencer à grandir et être plus mature. Juste un petit mot sur la parasha de Chukat. dans la parasha de Chukat, on parle de la chet memeriva. C'est quoi la faute memeriva? Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit, prends le bâton. Attention, hein, prends le bâton, mais tu vas parler au rocher. Ah, pourquoi tu me dis de prendre le bâton? Stam! Pourquoi tu m'as pris? Prends le bâton. Prends le bâton et parle au rocher. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il te fracasse le rocher. Bon, est-ce qu'il a parlé? Rachid, il a parlé. Il a fracassé le rocher. Hachem lui dit, parce que tu ne m'as pas sanctifié, tu ne rentreras pas en Israël. Alors, tous les commentaires, ils ont lâché beaucoup d'encre pour essayer de comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il est arrivé à une chose pareille et pourquoi Hachem, il a puni autant. Il a sauté et juré pour pas que Moshe Rabbeinu, il puisse prier. 515 filotes ne l'ont pas aidé. Isa Pshatou, regardez ça, c'est le Pshat, Sfat Emet, Netziv, Rav Tzadok HaKohen, en bref. Ils disent comme ça. Ils disent en fait qu'il y a deux générations. Il y a la génération de ceux qui étaient dans le désert et il y a la génération de ceux qui vont rentrer en Israël. Ça s'appelle Dor Amidbar et Dor Ba'er Etzrel, ceux qui vont rentrer. Là maintenant, si vous remarquez dans la parasha de Chukat, on fait un switch entre la deuxième année et on arrive à la 40e année. Quand Myriam elle meurt, c'est la 40e année. Aaron il meurt, 40e année. Moshe il va mourir, 40e année. Donc on fait un switch. Et puis Tom, là, les Bnei Israël commencent à râler. Pourquoi ils râlent maintenant? C'est maintenant que tu râles. Tu sais que tu vas rentrer en Israël au toto, ça va, arrête de râler. Écoutez, Rabotai, ils disent les commentaires. Ils disent que Bémet, il y avait la génération du désert. Moi, je l'ai appelé ça une génération de fils à papa. C'est-à-dire quoi? La proximité vers Hachem a été telle, comme toi, tu parles à ton père, c'était moi, je parle à Dieu. Ok? Comme ça, dans la Vatra d'Aflamédé, elle dit qu'il y a un arabe, il a dit à Rabba Bachana, viens, je vais te montrer c'est qui les gens du Midbar. Et leur a montré comme ça, les corps comme ça, parce qu'il écrit qu'ils n'ont pas été enterrés. Ils sont morts la tête vers le haut, comme ça. Eux-mêmes, ils sont mis dans la tombe. Mais parce qu'il écrit Pigrechem. Pigrechem, c'est-à-dire que c'est pas Pigrechem, c'est un Piger. C'est comme une Nevela. C'est comme une sorte de... Ouais, de... cadavre. Ouais, cadavre, très bien. Donc, ils ont pas été enterrés. Il dit, viens, je vais te montrer. Il y a écrit qu'il y en avait un des morts qui avait la jambe pliée. Et quand il avait la jambe pliée, il pouvait passer avec un chameau. Sur le chameau, un homme. Sur l'homme, il tenait une lance debout et il pouvait passer toujours en dessous des genoux. Pour te dire la taille qu'il avait, les gens. Le Maharal, il dit que c'est juste une image, c'est pour te dire la proximité. C'est-à-dire, qui je suis pour parler sur les gens du Midbar? En tous les cas, ces gens du Midbar, ils avaient une proximité à Dieu. Le manger, c'était la manne des Malachim. La boisson, c'était d'un rocher. Les habits, ils n'avaient pas de problème d'habits. Ils n'avaient pas l'eau aux toilettes. Ils étaient les fils à papa. Dès qu'ils avaient un problème, ils priaient et ça venait. C'est une génération presse-bouton. Ok ? Résultat de l'énervement. Qu'est-ce que maintenant ? Maintenant, ils rentrent en Israël. Hachem, ils veulent montrer. Ça y est, c'est fini le virement, papa, mon fils. Ça y est, le fils à papa, c'est fini. Tu vas commencer à travailler, frérot. Là, maintenant, tu rentres dans une nouvelle dimension en Israël. La dimension de la nature. C'est-à-dire que quoi ? Qu'il faut jouer à cache-cache. C'est pas qu'Hachem, la proximité, elle est plus dure. C'est pas que tu toques, il est là. C'est qu'il faut prier beaucoup pour qu'il vienne Hachem. Il est là Hachem, tout est nest, Kamouvan. Mais il faut le chercher Hachem. C'est pas que tu as la manne et tu as tout ce que tu veux. Ok? Donc comme une femme qui allaite, ouais, quand elle veut arrêter d'allaiter, ça prend du temps. Ok? Ouais, comment on dit en français? Une femme qui allaite, qui s'arrête d'allaiter, qui veut arrêter, qui veut donner des... qui veut s'arrêter d'allaiter et de donner... Ah, maintenant du comment ça s'appelle non bon je n'ai alors en tous les cas comme la femme quand elle veut donner des soupes elle va doucement elle donne pas directement la soupe quand elle fait que allaiter elle commence un peu des soupes elle allaite le matin la soupe le midi elle re-allaite le soir après doucement elle arrête. Hachem il voulait que Moshe Rabbeinu il montre doucement que le changement de comportement, il a changé. C'est plus le même comportement. Dans le désert, j'étais fils à papa, maintenant c'est autre chose. Qu'est-ce qu'Hachem dit? Tu vois le bâton? Montre-leur le bâton. Le bâton, c'est synonyme de presse-bouton. C'est-à-dire, je tape, la réaction, c'est de l'eau. J'ai la mer, Moshe Rabbeinu. J'ai la mer, il n'y a plus de mer. Ok? Ok, c'est coco, tout s'ouvre. C'est ça? Hachem, il dit à Moshe, tu prends ce bâton-là, tu le lèves, et tu leur montres que tu ne vas plus taper maintenant. En montrant le bâton, tu dis voilà, tu vois le bâton, il n'y a plus de bâton. Tombe le bâton, il n'y a plus de bâton. Il y a maintenant la parole. Je parle, il y a la tefila. En parlant, il y a le résultat de si je donne ou je ne donne pas. Si je suis là ou je ne suis pas là. Mais il n'y a plus la réaction du bâton et l'eau, elle sort. Moshe Rabbeinu, lui, qui a un niveau trop élevé, il tape. Parce que lui, il a l'habitude de taper. Il y a la mer, il faut s'ouvrir. C'est un fils à papa, quelque part. Non, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, il est dans un niveau tel que proximité avec Dieu, qu'il n'y a pas, d'écran, tu vois ce que je veux dire ? J'ai un problème, je joue le bureau, tu vois ce que je veux dire ? Je vais chez HM. Donc Moshe Rabbeinu, il est tellement haut que lui, il ne comprend pas ça. Il prend le bâton, il tape. C'est quoi il tape, Moshe Rabbeinu ? C'est quoi il tape ? Il dit, regarde, Rabotai, je tape, ça veut dire que HM lui a dit, t'as pas pu me faire Kiddush Hashem. T'as pas eu des Emouna. C'est quoi Emouna ? C'est que il y a là, et je finis avec ça. Quand ils étaient dans le désert, ils étaient le matin après le Kachem, on dit Emet Veyatsiv. Après le soir, après le Kachem du soir, on dit Emet Veemouna. Emouna, c'est quoi ? C'est la nuit. Quand on voit rien, on peut que croire. Mais Emet, c'est le dévoilement. Quand ils étaient dans le désert, c'était Emet. Quand ils arrivent en Israël, c'était Emouna. Et Akjbohu, il dit, tu n'as pas eu d'Emouna. L'Oeman Tambi, Makesha Emouna. Ben oui, ça cache chaud. Tu n'as pas inculqué l'Emouna. Tu es resté en voie des maîtres. C'est pas ça que je voulais, moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris le bâton, tu as tapé. Moi, je voulais que tu l'inculques, que la situation, le changement, il a changé maintenant. On n'est plus des fils à papa. On est quoi? C'est une nouvelle dimension. Et c'est pour ça que toi aussi, Moshe, tu ne peux pas rentrer en Israël. Parce que Moshe, tu n'arriveras pas à te mettre en Israël. Parce qu'en Israël, la proximité, elle n'est pas proche comme tu as l'habitude. Ce n'est pas fait pour toi. Dis l'Ora Chaim encore plus que ça. Dis l'Ora Chaim que si Moshe Rabbeinu il avait construit le Beth Amidash, qu'est-ce qui serait passé? Jamais le Beth Amidash serait détruit. Et donc Hachem, il serait énervé. Il aurait mis son énervement sur qui? Pas sur les pierres, parce qu'il ne peut pas détruire, sur le peuple juif. Moshe Rabbeinu, il s'est sanctifié pour ne pas rentrer en Israël, pour ne pas que ça se passe. Chazak Baruch, Baslacha.